Ici Patrick Normand. Vous écoutez Radio Ville-Marie, la radio qui vous offre la plus belle musique du monde.
Monsieur Davin, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi une chose, je lis votre blog très fréquemment, mais je me dis, mais pourquoi La faute à Rousseau? Quel est le pourquoi ce titre-là, ce nom?
Alors, si vous voulez, c'est une référence aux Lumières, évidemment. Rousseau, avec Voltaire et les autres, ont été à l'origine de ce mouvement qui, en réalité, a brisé notre ordre social ancien.
On parle du 18e siècle, donc.
Voilà. En même temps, c'est un clin d'œil à Hugo qui l'a mis dans un de ses poèmes. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
» Oui, ça, oui, je m'en souviens, oui.
Voilà.
D'accord. Et donc, vous jetez tout ça sur la tête à Rousseau, quoi?
Pas seulement de Rousseau, pas seulement. Il y aurait beaucoup à dire.
Il y aurait
non, mais
à...
il est exact que l'ordre social ancien français a été démoli à la Révolution et ensuite par la République idéologique qui en est issue. Nous le regrettons profondément.
Oui, oui.
Et nous constatons qu'en réalité, les philosophes des Lumières, qui se sont autoproclamés eux-mêmes les Lumières, ce qui est un petit peu quand même orgueilleux et un petit peu aberrant, ont joué les apprentis sorciers parce que le monde qu'ils nous ont laissé en héritage n'est pas aussi beau que les promesses qu'ils nous avaient faites.
Mais est-il plus laid que ce qu'il y avait avant la Révolution française?
Alors voilà, c'est une très bonne question. Mais si vous voulez, les rois de France, pendant les 1000 ans de royauté, n'ont jamais rien promis. Ils n'ont jamais fait de manifeste pour dire « Vous verrez avec nous, demain on rase gratis, vous verrez avec nous, demain tout sera plus beau.
Oui. »
Alors que Robespierre,
oui,
et puis après les descendants de Robespierre, c'est-à-dire Marx et Lénine, le marxisme-léninisme, Mao Tse-tung en Chine, Pol Pot, etc., eux, ils ont dit « Oui, nous allons établir une société sans classe, ce sera si beau, disait Lénine, qu'on ne pourra pas l'imaginer. » Eux, ils ont tout promis. Saint-Just a promis. Il a dit « Je vais régénérer la France sur un monceau de cadavres. »
Oui.
Et vous verrez après. Donc, nous, les royalistes, ce que nous disons, c'est que les rois, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ils ont fait la France, qui n'existait pas. Et ils en ont fait la première puissance, sinon dans tous les domaines, du moins dans un grand nombre de domaines. Alors que les révolutionnaires ont mis à bas ce système millénaire, enfin ce système, j'aime pas le mot, enfin, ce régime millénaire, en promettant monts et merveilles, et effectivement, ce que nous avons aujourd'hui, c'est moins bien que ce que nous avions autrefois.
Mais on ne peut quand même pas nier que la monarchie française, surtout après le grand siècle, au XVIIIe siècle, exploitait les classes, les paysans, etc. Les gens étaient grevés d'impôts, on crevait de faim aussi en France, alors qu'à Versailles, tout le monde dansait la gavotte.
Alors là, vous me permettrez d'être en total désaccord avec vous.
Allez-y.
Rien n'est plus faux que ce qui vient d'être dit, excusez-moi.
Ah,
non,
allez-y.
Le royaume de France était le royaume, au point de vue social, le plus en avance sur son temps. Alors, il faut remettre les choses en perspective.
Oui.
Évidemment, nous n'étions pas comme aujourd'hui. Les gens n'avaient pas chez eux, bien sûr, de machines à laver ou de choses qui agrémentent le quotidien. Ça, c'est un fait. Mais les choses étant ce qu'elles étaient en Russie, en Angleterre, en Espagne, c'est dans le royaume de France que la situation générale du petit peuple était, je ne dirais pas la meilleure, mais la moins mauvaise, en fonction des réalités du temps.
Mais comment vous expliquez, quand les États généraux se sont réunis peu avant la Révolution, le cahier des doléances était gigantesque?
Alors,
ils n'ont pas inventé ça toute pièce.
C'est exact, il y avait bien sûr des problèmes. Si vous voulez, il y a un parallèle à faire avec ce qui s'est passé en plein Moyen-Âge, à l'époque de Philippe Auguste, la Révolution communale.
On parle de quel siècle, ça?
Là, c'est le XIIe siècle.
Oui.
Le XIIe et le XIIIe siècle, disons, entre Philippe Auguste et Saint-Louis.
Oui.
À un moment, le royaume de France s'étant développé, s'étant enrichi considérablement, les cathédrales en sont un exemple.
Oui.
Les cathédrales coûtaient très très cher. Si on a pu les bâtir, c'est que le peuple, les bourgeois, donnaient de l'argent et voulaient qu'on les construise. Alors, à ce moment-là, il s'est créé un nouveau pouvoir, le pouvoir communal. Il y a eu une révolution communale, mais avec un R minuscule.
Oui.
Eh bien, en 89, la France était mûre pour une deuxième révolution, c'est-à-dire environ 600 ans après.
Oui.
Il fallait créer l'échelon intermédiaire qui manquait pour devenir, entre guillemets, moderne. Il fallait créer la représentation nationale, c'est-à-dire les députés. Donc, il fallait une révolution française, mais il fallait une révolution avec un R minuscule, pas avec un R majuscule, une révolution idéologique qui a mélanger les aspirations légitimes du peuple avec un fatras idéologique qui a abouti très 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 vite, en 5 ans seulement, au génocide vendéen et au totalitarisme.
Oui, avec Robespierre aussi. D'ailleurs, sur votre
site,
on voit, il y a un texte très intéressant sur votre site sur Robespierre qui justifie la condamnation à mort de Louis XVI.
Bien sûr. qui est assez, c'est ce qu'on appelait l'anti-grand texte, où nous mettons des grands textes.
Oui.
Et Robespierre a écrit « Il faut que Louis meure ». Et son ami Saint-Just a dit « Je ne juge pas le roi, je le tue. Il n'y a que deux solutions. Louis doit régner ou mourir. On l'a tué parce qu'il était roi. »
François Davin, parlant de grands textes, vous avez certains auteurs... je dirais pas fétiche, mais que vous aimez beaucoup. Il y a Chateaubriand, qui était royaliste. Il y a Malraux aussi, ça on peut pas trop dire qu'il était royaliste, il me semble. Et il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Gustave Thibon.
Ah oui.
Qui était connu au Québec dans les années 50, parce qu'il venait souvent faire des tournées dans le cadre des Alliances françaises, à droite et à gauche.
Il nous en a parlé, je l'ai bien connu, figurez-vous.
Vous l'avez connu?
Oui, mais alors, dites-moi un groupe d'amis à Marseille, je vous parle de Marseille.
Et vous en avez l'accent du reste.
Voilà, je le dis à vos auditeurs, nous sommes Marseillais, provençaux.
Oui.
C'est une belle région, comme le Québec aussi, qui est une belle région. Je n'y suis pas allé, mais je la connais quand même malgré tout.
Bon, vous viendrez, vous invitera. Mais Gustave Thibon est un paysan. C'est un philosophe, c'est un autodidacte, mais un paysan qui est pour l'idée royaliste. Alors, dans notre mentalité moderne, on se dit qu'un paysan n'est pas du tout pour le roi. Le paysan, il est pour l'égalité pour tous. Comment vous expliquez ça?
Non, ça, c'est le fruit d'une propagande, d'une propagande insensée. Et d'un mensonge d'État, d'un mensonge officiel. Il faut bien que les vainqueurs écrivent l'histoire et diffusent leur vérité.
Mais
leur vérité
cas,
avec un V minuscule ne sont pas la vérité avec un V majuscule. Alors, Gustave Thibon, justement, je l'ai connu, j'ai parlé beaucoup avec lui, je l'ai écouté dans ses discours, et il était paysan philosophe.
Oui.
Et il était tout à fait persuadé que la monarchie française, dans son histoire, avait fait le bien du pays et le bien du peuple. Et que justement, le reproche que nous faisons à la République n'est pas d'être une République, parce que nous ne sommes pas anti-républicains.
Oui.
Nous sommes contre l'idéologie, nous sommes contre cette République parce qu'elle est une République idéologique. C'est l'idéologie que nous n'acceptons pas.
Mais comment vous définissez cette idéologie, vous ?
Alors là, l'idéologie révolutionnaire, eh bien, ce sont les rêveries. À la base, c'est l'égalité. Comme le disait Chateaubriand lui-même, la folie des Français, c'est l'égalité. Ce n'est pas la liberté, c'est l'égalité. Et Chateaubriand lui-même a très bien vu, dans les années 1830, avec Lamennais, que cette folie, entre guillemets, mènerait au goulag. Et il l'a écrit noir sur blanc. Il a prévu le goulag avec Lamennais. Et c'est bien ça. Effectivement, si on proclame l'égalité, on va être obligé de contraindre les gens.
Mais vous,
c'est le goulag.
Mais... Vous comprenez que vos thèses passent difficilement aujourd'hui. Je crois comprendre où vous vous situez, mais comment vendre l'idée de non-égalité aujourd'hui ?
Alors,
entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, entre grands, petits, enfin...
Alors oui, non, attention. Il faut bien sûr, évidemment, distinguer l'égalité de dignité. Nous sommes tous des enfants de Dieu, etc. Toute personne a évidemment une égale dignité. Nous sommes d'accord là-dessus.
D'accord, oui.
Non, mais je parlais politiquement. Nous, si vous voulez, nous prenons le problème à l'envers. C'est-à-dire... Nous ne disons pas nous sommes royalistes, nous disons nous ne sommes pas idéologues, vous me posiez la question, nous observons le monde tel qu'il est.
Oui.
Nous observons la société dans laquelle nous vivons.
Mm-hmm.
Et le modèle que nous voyons, est-il plaisant ou déplaisant ?
Plaisant pour qui ?
Ah ben, pour tout le monde, pour les citoyens que je suis. Regardez par exemple cette réduction actuellement du politique à l'économique.
C'est vrai.
Et cette domination exclusive des puissances de l'argent. Est-ce que c'est une bonne chose ?
Est-ce normal
qu'une révolution qui a promis l'avènement du bonheur, rappelez-vous encore une fois Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe, eh bien, 200 ans après, on assiste au règne absolu et sans partage de l'argent. Où est l'erreur ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Et vous liez ça directement à la révolution, hein ?
Oui, la révolution, en abattant le pouvoir qui venait de l'histoire, de la tradition, qui était divin, etc., la révolution a fait sauter toutes les digues, peut-être sans s'en rendre compte d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai employé le mot d'apprenti sorcier.
François...
Mais elle a fait sauter toutes les digues qui contenaient l'argent dans sa sphère normale. L'argent, en tant que tel, ne nous gêne pas. L'argent, il a son rôle qui peut être bénéfique.
Mmh.
Mais ce qui est mauvais, c'est quand l'argent devient le tout. C'est quand l'argent devient roi. On a tué le roi et l'argent est devenu l'argent roi.
François Davin, je pense qu'il y a aussi une confusion entre votre discours et ce que nous percevons. C'est que le mot roi peut se dire aussi monarque. Donc on est monarchiste ou on est royaliste. Et il me semble que ce sont deux réalités différentes. Le roi n'a pas la même fonction que le monarque. Le monarque, c'est le seul qui gouverne. Il écrase tout le monde. Alors que le roi est un catalyseur plutôt.
Alors, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Alors là, nous sommes tous totalement d'accord là-dessus.
Donc
nous sommes royalistes et non pas monarchistes.
Vous n'êtes pas monarchiste, vous êtes royaliste. Hein?
Royaliste, oui, absolument. Parce que le roi est un pouvoir issu des origines de notre histoire. Il est donné par l'histoire.
Oui.
Il a les fondements de notre royauté sont des sens spirituels et non pas, comme je viens de le dire avec l'argent, des sens matériels, mais un matériel vulgaire.
Sauf que vous serez bien obligé d'avouer avec moi, que, de convenir avec moi que dans ses débuts, la royauté, c'est très bien, on est d'accord avec ce principe-là, mais ça dégénère peu à peu en monarchie.
Ah oui, bien sûr, dans la mesure où oui... C'est l'origine du mot, mono en grec, qui veut dire un seul. Si vous voulez, toute royauté est monarchie, mais toute monarchie n'est pas royauté.
D'accord, je vois.
Voilà, Hitler est un monarque, Staline est un monarque.
Maintenant, à notre époque, donc pétrie d'égalitarisme, si vous voulez, comment faire revenir cette idée de royauté? Je ne dirais pas nécessairement d'avoir un roi dans la société, bon, mais comment retrouver cette idée dans les rapports humains, dans les rapports sociaux de la royauté?
Ah, effectivement, c'est difficile. Je crois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la première des choses à faire est de dire aux gens, mais ouvrez les yeux, un bon arbre produit de bons fruits.
Oui.
Si les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Alors, on nous a promis justement à cette révolution, qui est une rupture catastrophique, non seulement pour la France, oui, mais pour l'Europe et pour le monde, parce que vous le savez évidemment, les révolutionnaires, Marx et Lénine, mais aussi Mao, aussi Pol Pot, tout le monde s'inspire de la Révolution française.
Bien. Donc, la France rayonne dans le monde entier.
Bien sûr, malheureusement. Elle a rayonné pour le bien, je crois, en donnant la langue, entre autres, et elle a rayonné pour le mal, je le pense. Alors, la première des façons, oui, votre objection est tout à fait excellente, la première des façons, à mon avis, à notre avis, c'est de dire aux gens, mais enfin, observez, quittons un petit peu le domaine des abstractions, nous avons de mauvais fruits. Comment cela est-il possible? Comment pouvez-vous conjuguer cette constatation des fruits mauvais avec les promesses des origines?
Mais
il y a un problème quelque part.
Mais les fruits n'étaient pas nécessairement meilleurs avant. Enfin, j'ai l'impression que vous jugez une époque actuelle d'après un âge d'or, d'avant la Révolution. Les choses n'étaient pas aussi, c'est pas aussi blanc et noir que ça, non?
Alors ça, vous avez raison. Il y a eu des filous, il y avait des ministres corrompus, tout à fait.
Oui.
Il n'en demeure pas moins que si on raisonne dans le cadre un petit peu, pardonnez-moi d'être un petit peu égoïste, mais de la France.
Allez-y.
Il y avait une ascension régulière de Hugues Capet à Louis XVI. Le royaume de France d'abord n'existait pas,
oui,
puis il a existé et il était grand. Bien. Donc il y a, de toute évidence, malgré les erreurs, malgré les guerres de religion, malgré la guerre de Cent Ans, malgré toutes les choses négatives de notre histoire,
oui,
il y avait une sorte de croissance ininterrompue,
croissance,
avec de nombreuses rechutes. Alors que depuis la Révolution, les guerres napoléoniennes, nous avons perdu une quantité... la France a perdu 5 millions d'habitants en 200 ans à cause des guerres.
C'est vrai, oui.
Hein? Voilà. Alors, ensuite, la perte de prestige, la perte de territoire. Donc, 89-93 marque de toute évidence une rupture et la fin d'un âge d'or qui n'a pas été rien qu'un âge d'or, mais qui était effectivement... une trajectoire constamment positive malgré les chutes. Alors que depuis 89, la trajectoire est brisée. Et c'est une trajectoire négative, effectivement. Ce qui ne veut pas dire que la France a disparu. Nous ne pensons pas que la France, comme le disent les révolutionnaires, commence en 89-93, mais nous ne disons pas non plus, comme le disent certains, qu'elle finit en 89-93. Si le roi est introduit et réintroduit en France,
oui,
il sera le roi de tout le monde. Il prendra la France comme elle est aujourd'hui, exactement comme Hugues Capet a pris ce qui n'était pas encore la France, en 987.
Mais venons-en, si vous voulez, à l'époque contemporaine. Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle, qui a été le père de la Ve République, a été un roi? Parce que tout le monde a dit qu'il était à droite ou à gauche, mais il n'était ni à droite ni à gauche. Il était au-dessus des partis, ce qui est la fonction d'un roi, du reste.
Alors, tout à fait, il a voulu... Son mot exact, c'était « surplombé ». Il voulait surplomber les partis.
Et donc le roi surplombe les partis également. C'est la fonction de la reine d'Angleterre, du reste. Hein?
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tout à fait. Mais vous savez que Louis XVI, conseillé par Mirabeau, c'est ce qu'il aurait fait, très certainement.
Oui.
Donc l'Assemblée nationale aurait été instituée et il y aurait eu un partage de souveraineté, comme d'ailleurs l'a fait Louis XVIII.
Oui.
Donc, si vous voulez, ce que nous reprochons à l'actuel état de choses en France, c'est que le président de la République, il faudrait qu'il ait au-dessus de lui... Vous venez de parler de la reine d'Angleterre, du roi d'Espagne. En Angleterre, en Espagne, on élit quelqu'un pour la fonction de Premier ministre. Mais le poste majeur est soustrait au tumulte. Il est soustrait donc à l'argent aussi. On
donc,
en parlait tout à l'heure.
Donc gage de stabilité
et
abolition des factions. Donc il n'y a pas de parti dominant. Il y aura toujours... C'est un peu le rôle du Sénat, en fait.
Mais oui, bien sûr.
Un peu le rôle du Sénat.
Bien sûr. Donc nous ne reviendrions absolument pas... sur le fait qu'il y aurait évidemment des députés, qu'il y aurait des élections, qu'il y aurait des majorités qui changeraient, que le Premier ministre pourrait être une fois de droite, une fois de gauche. Mais il y aurait au-dessus de tout cela un espace que nous appelons a-démocratique, c'est-à-dire un espace de paix, un espace de temps long, un espace de durée, de sérénité, qui permettrait, au-dessus des légitimes fluctuations de l'opinion, du corps politique, qui tantôt vote à droite, tantôt vote à gauche, qui permettrait à la nation, dans le temps long, de maintenir son unité et sa trajectoire.
François Davin, quand vous parlez du temps long, est-ce que vous vous référez également au droit divin ? C'est-à-dire que le roi dépend de Dieu, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis aux aléas humains.
Alors, évidemment, là, c'est une idée qui est difficile à faire entendre aujourd'hui à des gens qui, par exemple, ne seraient pas chrétiens.
C'est ça,
il y a eu une époque, à l'époque de Saint-Louis, où l'ensemble du peuple, même s'ils étaient pour certains parce qu'ils suivaient le mouvement dominant, l'ensemble du peuple était chrétien. Alors, aujourd'hui, effectivement, là, il y a une petite difficulté. Mais, de toute façon, on n'est pas obligé d'être chrétien pour accepter un pouvoir qui pacifie le sommet de l'État. Donc, je suis bien d'accord, moi, personnellement, je suis chrétien, donc pour moi, il n'y a aucune solution de continuité, si je puis dire, mais même pour des gens qui ne seraient pas chrétiens, ils peuvent très bien accepter l'idée d'un roi, non pas parce que son pouvoir viendrait de Dieu, mais parce que son pouvoir, de facto, apporterait cette stabilité, cette paix, ce calme, cette sérénité au-dessus des légitimes turbulences et tempêtes de l'opinion publique.
Est-ce qu'on pourrait dire, vous êtes chrétien donc, est-ce qu'on pourrait dire que le pape est aussi un roi ? L'Église est hiérarchique. Donc,
ah, tout à fait. Tout à fait. Le pape tire son pouvoir de Jésus-Christ. Hein, tu es Pierre et sur cette pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc ça, c'est évident. Le pouvoir papal est absolument indémocratique. Mais regardez bien ce qui est amusant, c'est que justement, c'est un peu la réponse à ce que vous me disiez tout à l'heure. La popularité, par exemple, de Jean-Paul II.
Oui.
Quand Jean-Paul II meurt, le monde entier est sur la place Saint-Pierre.
C'est juste.
Vous savez, il y a bien des présidents, bien des chefs d'État, soi-disant élus démocratiquement de République, qui aimeraient avoir cette popularité-là. D'accord ?
Oui, il faudrait qu'ils se tuent tous, peut-être.
Oui.
Mais vous savez...
Alors, aussi, si on revient aussi à l'argent, voilà, un pouvoir, le pape, qui, lui, bien sûr, n'est évidemment pas fondé sur l'argent, comme je reprochais tout à l'heure, et je reproche à la République idéologique d'avoir asservi le pouvoir politique à l'argent et d'avoir réduit le politique à l'argent.
François Davin, je pense qu'une façon de faire accepter l'idée royaliste, c'est que revenir au pape qui, lui, représente le Jésus-Christ, revenons à la scène du jeudi saint. Vous savez, quand il lave le pied de tout le monde, les pieds de tout le monde, et il lave les pieds de Saint-Pierre, qui, lui, se rebiffe, il dit non, c'est toi le maître, c'est moi qui vais laver tes pieds. Il dit, le maître n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc le pape est le dernier de tous les chrétiens, et le roi est en fait le dernier de tous les sujets du royaume.
C'est exact. C'est exact. D'ailleurs, vous vous souvenez, enfin, vous connaissez l'anecdote, qui est bien plus qu'une anecdote, de Philippe Auguste au matin, au dimanche matin de Bouvines, de la bataille de Bouvines.
C'est quoi ça ?
Eh bien, il réunit ses barons, mais aussi ses hommes de troupe.
Oui.
Et il réunit les gens des communes aussi, qui viennent se battre avec lui, et il leur dit « Je suis le roi, mais sans vous, je ne suis rien. Et vous êtes les rois. » Alors, vous savez, je suis professeur d'espagnol.
Oui.
Donc, en Espagne, il y a une tradition qui est très belle, qui maintenant s'éloigne, c'est le carlisme.
Le quoi ? Le carlisme.
Bon, on va faire très court dispute dynastique. Mais le carlisme espagnol pense qu'en réalité, il faut un roi à la tête. Mais toute la société doit être royale.
Vous savez, j'ai l'impression que vous parlez d'un jeu d'échecs, parce que le roi aussi, le roi, il peut à peine bouger, il peut rien faire sans ses pions, sans sa reine, la tour et le cavalier et tout ça.
Oui.
Mais il est inutile, mais dès qu'il tombe, la partie finit.
Ah, tout à fait.
Est-ce que vous feriez un parallèle entre vos idées à vous et le jeu d'échecs ?
Ah mais oui, bien sûr, on peut absolument le faire. En tout cas, nos adversaires, eux, l'ont fait. Robespierre l'a fait, hein. Robespierre, Saint-Just et les autres. Et les communistes en Russie, quand ils ont assassiné le tsar, etc. Et eux ne s'y sont pas trompés. Et ils l'ont tout à fait. Ils l'ont tout à fait compris et ils l'ont fait, ce parallèle, bien sûr.
François Davin, malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'était passionnant. J'espère que ça va susciter débat parmi nos auditeurs.
Nous allons mettre bientôt sur le blog un dîner débat de Gustave Thibon, passionnant, avec Alain de Benoist.
Ah oui !
C'était christianisme et paganisme, culture et tradition.
Je crois que
ça vous plaira.
J'ai déjà entendu du reste. C'est très bon. Alors écoutez, si on veut vous lire, on fait www.lafautearousseau en un mot.
En un seul mot.
.haut-et-fort-en-un-mot.com.
Voilà.
C'est ça ?
C'est ça.
François Davin, merci infiniment.
Merci à vous et au revoir le Canada.
Au revoir la France.